peux en dire plus sur les désaccords qu'il y avait entre ses positionnements et engagements antiracistes et le mouvement des suffragettes lui-même, parce que tu disais ça se fait pas, mais pourquoi selon le reste du mouvement ça se faisait pas?
Alors l'histoire des suffragistes, enfin des du mouvement féministe anglais est vachement compliquée par rapport au racisme, à l'esclavage et à tout ça. Entre autres, en fait, le féminisme et la lutte contre l'esclavage sont nés quasiment ensemble. C'est-à-dire que c'est dans les mouvements américains blancs, il y avait beaucoup de gens quand même qui étaient, enfin beaucoup, il y avait des gens qui étaient contre l'esclavage, et c'est à l'intérieur de ces mouvements-là que le féminisme est né aux États-Unis. Enfin, c'est peut-être un peu caricatural ce que je dis, mais en tout cas, ça marchait vraiment ensemble. Et puis, à un moment donné, il a été question de donner le droit de vote aux hommes noirs. Et alors là, les femmes blanches n'étaient plus du tout d'accord. Donc c'est peut-être lié à ça, je n'en sais rien. Mais de toute façon, le racisme aux États-Unis, c'est phénoménal, quoi. Tu vois, enfin, moi j'y étais la première fois que je suis arrivée aux États-Unis, c'était en 1967. C'était stupéfiant. J'étais à un moment donné, pas quand j'étais à New York ou dans le Nord, mais quand je suis allée à la Nouvelle-Orléans, les Blancs changeaient de trottoir. Une fois, j'avais rendez-vous avec des amis, enfin ma famille, en fait, j'avais de la famille là-bas. Et j'arrive au rendez-vous en avance, je discute avec un mec, je fais pas très attention à sa couleur de peau, parce que ça me venait pas à l'esprit, moi, à l'époque. Et arrivent les gens avec qui j'avais rendez-vous, et ils m'ont dit « on s'en va tout de suite ». Donc c'était un niveau de racisme qui était quand même phénoménal, quoi. Et c'était comme ça dans le monde. On a oublié, en fait, à quel point c'était fort. Et alors, et en Angleterre, c'était terrible parce que, ce que je disais tout à l'heure, la gauche anglaise était raciste, en fait. Le Labour, on défend les ouvriers, donc on défend les ouvriers anglais. Et on ne veut pas d'immigration. C'est assez extraordinaire. Et ils étaient très impérialistes aussi, parce que c'était l'Empire qui produisait les richesses, qui faisait de l'Angleterre le pays puissant qu'elle était. Est-ce que j'ai un peu répondu ou... Tu n'avais pas des questions, toi, tu m'avais dit?
Moi j'avais une question. Tu as évoqué un peu rapidement là, mais l'histoire de... Elle va en Russie, elle découvre un peu les soviets, puis elle revient dans le quartier populaire de l'Est de Londres, là. Elle veut mettre en place des soviets, mais elle dit des soviets sociaux, qui ont la différence de ne pas être liés au lieu de travail, mais plutôt au lieu
les
de vie,
deux.
En fait.
Les deux.
Okay, justement, je voudrais savoir un peu plus là-dessus, parce que j'ai l'impression que c'est intéressant de reprendre de manière féministe, en fait, les soviets, en disant que le lieu de vie permet d'inclure les travailleuses, mais aussi les femmes au foyer,
oui,
mais aussi
les
chômeurs,
toutes les personnes qui
font du travail gratuit, ce qu'on dirait.
Oui, ben l'idée, si tu veux, c'est d'organiser les gens justement en dehors du monde du travail et en dehors des syndicats aussi. Alors il y a toujours cette même lutte au sein des mouvements ouvriers entre les syndicats, pas les syndicats. Enfin, moi je suis pas du tout historienne, hein, donc j'y connais pas grand chose, mais enfin, elle, en tout cas, c'est vrai que comme elle avait commencé à organiser la vie des... Enfin, à aider à organiser et à faire ça, c'est une chose que moi, je trouve formidable chez elle, c'est que elle était beaucoup dans la coopération, dans l'idée de l'intelligence collective, contre l'idée de chef, absolument. Donc même si c'était un personnage assez charismatique, parce qu'apparemment les gens l'adoraient, c'était pas comme ça qu'elle voulait travailler, en tout cas. Elle voulait pas être une chef. Elle voulait pas organiser des choses autour de la notion de chef. Et donc comme elle avait organisé les crèches, les restos pas chers... Ah oui, puis elle a fondé des fabriques aussi. Elle a fondé deux fabriques, dont une qui n'a pas très bien marché, je pense que c'était peut-être des chaussures ou un truc comme ça, pendant la guerre, pour faire gagner de l'argent à des fermes. Elle a fondé une fabrique de jouets aussi. Et ça, c'était formidable, ça a super bien marché, quoi. Et des femmes qui n'avaient jamais fait de choses comme ça se sont mises à fabriquer des jouets en bois, à les peindre. Et donc, c'est ça qui faisait que, avec cette expérience, elle disait, mais c'est la seule façon de faire marcher le monde, en fait. C'est de s'organiser en conseils qui permettent aussi aux femmes de travailler et aux enfants d'être gardés. Donc, soviets sociaux et soviets aussi sur les lieux de travail. Il y avait les deux, hein. C'était pas que un, c'était les deux à la fois. Bon, moi, il y a peut-être une dernière chose que je veux dire, c'est quand j'ai écrit ce livre, il y a pas mal de trucs qui m'ont posé problème. Et entre autres, il y a l'idée d'en faire une héroïne, en fait. Parce que c'est vrai qu'elle a un côté incroyablement héroïne. Je veux dire, les séances de prison, ce qu'elle a vécu. Et puis, elle était trop marrante, quoi. Et moi, c'est ça que j'aime. C'était une insoumise totale. Donc, elle acceptait d'aller en prison. Après, elle devait se planquer. Parce que quand elle sortait de prison, elle était surveillée sans arrêt. Elle n'avait pas le droit de sortir d'Angleterre. Elle a fait des voyages incroyables dans l'Europe entière, totalement clandestinement. Donc, elle se déguisait, elle faisait plein de trucs. Donc, c'est vrai que c'est une héroïne, quoi. Et en même temps, moi, j'aime pas du tout la notion d'héroïne, parce que je pense que je n'écris pas l'histoire, je suis pas historienne. Hein, mais, justement, on le sait, l'histoire, elle est toujours écrite par les dominants. Et le récit héroïque et les personnages héroïques sont ce qui sert aux dominants de bonne conscience symbolique, on va dire, un truc comme ça, pour asseoir l'idéologie qui va faire qu'ils vont rester des dominants. Et donc, voilà, ça me posait un gros problème, l'idée de me dire je veux pas que ça soit une héroïne. Voilà, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut écrire l'histoire. Et elle a ce côté héroïque, mais elle a aussi ce côté de s'être plantée, enfin, ou peut-être pas de s'être plantée, mais en tout cas d'avoir changé au fur et à mesure, ce qui est très humain. C'est pas la seule, hein. C'est, je veux dire, à peu près tout le monde, disons. Et je trouve ça assez émouvant, et je trouve que ces idées de travail collectif et de fonctionnement sans chef, sans argent, c'est quand même à peu près ce qui se fait de mieux, quoi. Voilà. Anything else? Oui.
Peut-être sa position sur à propos de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez dit qu'elle avait une position différente par rapport à la première. Où elle était fondamentalement contre. En fait, ça avait changé pour la deuxième.
Ouais. Bah oui, parce que elle était fondamentalement anti-nazie et anti-fasciste. Donc c'était plus possible, quoi. Et c'est vrai que je pense que il y a très peu de gens qui ont résisté à ça. Rester pacifiste pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'éternel cas de Jean Giono, qui, lui, est un des seuls personnages connus, hein, bien sûr, à avoir résisté, à avoir dit « il ne faut pas faire la guerre, il faut... » Et parce que Jean Giono, il a fait la Première Guerre mondiale, il était pacifiste et totalement contre. Il y a un très beau texte de lui qui s'appelle, je ne sais plus s'il s'appelle Refuser d'obéir ou Appel à la désobéissance. Bon, enfin, c'est de cet ordre-là. Mais sinon, que faire en face d'Hitler et de Mussolini, quoi ? Et de ces armées qui marchaient au pas. Voilà. Et donc là, elle a dit je ne suis pas pacifiste, je suis contre un certain type de guerre. Et en même temps, on peut dire, enfin, Giono, par exemple, il disait que la Seconde Guerre mondiale, c'était pareil, hein, c'était toujours des gros industriels, des gros capitalistes qui s'entendaient les uns avec les autres pour faire se tuer des gens qui avaient rien les uns contre les autres, c'est-à-dire les travailleurs, les ouvriers qui s'entretuaient alors qu'ils étaient plutôt potes au départ. Et les autres qui... On peut dire ça. Alors moi, c'est pareil. Là, j'ai pas de... c'est difficile quand t'es antifasciste, tu vois, de dire, bah non, il y a qu'à les laisser faire, quoi. C'est compliqué, en tout cas. Voilà. C'est une question compliquée.
Dans l'ouvrage, vous mentionnez un autre personnage féminin, enfin une personne, Alexandra Kollontai, donc
ouais.
qui est très proche... en tout cas dans la pensée avec Sylvia Pankhurst. Est-ce qu'elle réussit, après la révolution d'octobre, à amener pas mal de choses au niveau du féminisme en Russie, qui vont être enlevées par Staline plus tard? Et du coup, est-ce que sa rencontre avec Alexandra Kollontai l'a poussée encore plus dans la voie du communisme, justement en se disant peut-être que, vu qu'en Russie, il y a pu avoir des choses qui ont été faites, peut-être que...
C'est pas au même moment. Kollontai, elle a participé au jour. Enfin, Pankhurst l'a publié dans son journal. Je ne pense pas qu'elle se soit rencontrée. Je pense pas que Kollontai était en Russie quand Pankhurst y est allé. Et non. C'était après. Oui, elle écrivait dans le journal. Donc y avait toute cette pensée. Hein. Il y avait Clara Zetkin. Il y avait quand même une pensée de féministe, de femme qui était liée au mouvement ouvrier. C'était assez important, quoi. Et par contre, après, le destin d'Alexandra Kollontai, je ne sais pas si vous savez, Lénine l'a gentiment nommée ambassadrice. C'est quand il était le moins méchant. Il nommait les gens ambassadeurs pour qu'ils s'en aillent, quoi, qu'ils arrêtent de dire le contraire de lui. Dès qu'il y avait de la contestation, il se débarrassait des gens. Déjà lui, quand même. Donc, l'opposition qu'il y avait à l'intérieur du parti bolchevique, soit c'est des gens comme Kollontai, donc qui a été... Alors, dans tous les trucs féministes, on est vachement content de dire « Ouais, c'était la première ambassadrice, la première femme qui a eu un poste d'ambassadeur, c'est super !» Et en fait, c'est juste parce qu'ils voulaient se débarrasser d'elle. Qu'elle soit dans un endroit où ça posait pas trop de problèmes. Je crois qu'elle était ambassadrice du RSS en Suède. Donc, c'était tranquille, quoi.
Toi, tu as levé la main.
Une question en lien avec les indépendances de l'Empire de la Grande-Bretagne. Est-ce qu'elle a contribué à, on va dire, diffuser, créer des mouvements féministes dans les nouvelles, dans ces nouveaux pays, mis à part l'Éthiopie où elle s'est rendue?
Alors, elle n'a pas vraiment créé un mouvement féministe, hein, mais c'est vrai que c'est ce que je disais, pendant l'entre-deux-guerres et jusqu'à la fin des années 50, le féminisme enterré. Hein, pour beaucoup, beaucoup de choses. Tu veux même, justement, la place des femmes dans l'art, il y a eu une régression par rapport au début du XXe siècle. Le début du XXe siècle, c'est une époque où ça pète dans tous les sens. Il y a plein de femmes artistes. Moi, c'est pour ça que j'ai écrit là-dessus pas mal de trucs, des articles. J'ai fait beaucoup de recherches et c'est une époque dingue. Il y a des poètes magnifiques, surtout en Russie, il y a Akhmatova, Tsvetaeva. C'est une époque bouillonnante. Et après, c'est pathétique, quoi. Et ça recommence dans les années 60, partout, en fait. Même, je veux dire, il y avait même des féministes en Chine, au Japon. C'était extraordinaire. Il y a des écrits d'une chinoise absolument incroyable qui était révolutionnaire et féministe. C'était peut-être un peu après la Première Guerre, mais c'est genre ça qui date de 1920, qui sont des textes inouïs, quoi. C'est... Voilà, donc, non. Ma réponse, c'est non, il ne sait rien. Pas. Enfin, elle a quand même écrit, justement, elle a écrit ses mémoires, elle a écrit certains livres, certains textes qui traitaient de ça, mais je pense que ça n'a intéressé personne. C'était pas un très bon moment pour ça, quoi. Voilà, il a fallu que, oui, pour que le féminisme, d'ailleurs on appelle le féminisme des années 60 et 70, on dit la seconde vague. Et la première vague, c'est avant la Première Guerre mondiale. Et entre les deux, à la maison.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des femmes qui faisaient des trucs.
Ah, absolument.
Je pense que ça c'est pas les...
Très bien. Oui, oui.
Un mélange, une confusion entre les féministes et les femmes militantes.
Oui.
Je pense, je ne sais pas, dans le milieu à l'art, par exemple, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient en tôle pendant la Deuxième Guerre, ben, ils étaient remplacés par des femmes qui ont témoigné que la trouille qu'elles avaient de monter au podium et de s'adresser aux gens, ou de distribuer...
Ouais, mais elle remplaçait les hommes.
Ou de rédiger un journal.
Oui.
Bon, elle se disait pas féministe.
Non, ben oui, mais c'est un petit problème quand même. Oui, de pas se dire féministe, c'est un petit problème pour les féministes. C'est vrai qu'elle remplaçait les hommes. Bah...
Il n'y avait pas de femmes qui faisaient des trucs.
Ah non, mais j'ai jamais dit ça. Je dis qu'il n'y avait pas de mouvement féministe.
Non.
Enfin, s'il y avait. Mais il y avait des trucs, forcément. Oui. Mais ça n'avait pas l'ampleur. Et puis c'est vrai que. Mais c'est pareil. Moi, en plus, c'est pas du tout une critique parce que. Il y a des luttes par moments qui font que t'es prêt à la gorge et puis tu vois si t'es quand t'es résistante tu réfléchis je sais pas il y a eu des femmes résistantes elles planquaient les armes dans le landau du bébé ou enfin moi j'aurais connu une qui a fait ça c'est pour ça que je raconte mais tu vois et c'est vrai que elle ne s'est jamais dite féministe, par exemple, si tu veux, alors qu'elle était hyper dynamique, qu'elle voulait avoir l'égalité et tout, aussi. Donc c'est juste que c'était pas un mouvement, c'était pas du tout théorisé, quand même. Je sais pas, moi, peut-être qu'il y en a et que je les connais pas, mais il n'y a pas énormément de livres qui ont dit bon, ben maintenant ça suffit, quoi. Avant, entre ces deux périodes, justement. Si tu veux, il y a la période où il y a Virginia Woolf et d'autres. Enfin bon, il y a Une chambre à soi et Trois Guinées. Et puis, et là où il y a d'autres textes, etc. Et puis après, il y a pratiquement pas de texte féministe. Enfin, moi, j'en connais pas, mais il y en a peut-être qui m'échappent, hein, ça, alors là. Et après, par contre, t'as Simone de Beauvoir. Donc, c'est des gens qui ont... Alors, est-ce qu'il faut théoriser ou pas théoriser? J'en sais rien, hein, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même Simone de Beauvoir. Et puis après, aux États-Unis, il y a eu Kate Millett, sur qui je travaille en ce moment. Qui ont lancé la seconde vague de féminisme, voilà, c'était et qui ont dit il existe une domination, nous sommes dominés, ce qui n'était pas, tu vois, qui n'était pas dit dans les années 50, 30, 40, quoi. Jusqu'à il y a Simone de Beauvoir, quoi. Et le livre de Simone de Beauvoir, c'est un truc énorme. C'est un livre qui a marqué vraiment beaucoup de gens, en particulier dans les pays anglo-saxons. Oui ?
Dans sa jeunesse, quelles étaient ses sources d'inspiration ? Est-ce que c'est plutôt des choses qu'il a lues, des personnages, des personnes qui...
Sylvia Pankhurst, tu veux dire pour la peinture ou...
Dans sa vie,
dans ce qu'il a marqué,
Fait de la...
Oh là là, il y a une liste à un moment donné. Alors, il y a déjà tous les... Enfin, il y a Louise Michel, il y a tous ces personnages de la nébuleuse anarcho-socialiste révolutionnaire de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et puis, elle est très marquée aussi. Alors ça lui donne un petit côté un petit peu romantique, très, très romantique même, par William Morris, le mouvement de Art and Craft anglais, et par les utopistes aussi, et puis par la peinture pré-raphaélite. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, la peinture pré-raphaélite. Donc, elle est très, très marquée par ça. Et on peut parler de sa peinture qui a deux côtés qui sont très étonnants. C'est-à-dire, c'est comme elle, en fait. Il y a un côté très art and craft et pré-raphaélite dont elle se sert beaucoup, beaucoup pour la décoration. C'est-à-dire qu'elle a peint des murs, des affiches, tout, pour les suffragettes. Hein. Elle s'est mise complètement au service de... Enfin, elle a mis son art au service de la cause suffragette. Et c'est très des petits anges, des vignes, des fleurs, enfin, art and craft et pré-raphaélite. Et puis, elle a toute une partie de sa peinture complètement réaliste. En particulier des tableaux qu'elle a fait pendant une tournée où elle est partie en train, comme elle pouvait, dans tout le nord de l'Angleterre, et où elle a représenté les femmes au travail. Donc les femmes dans les mines, les femmes à la forge, les femmes dans les champs de patates, les femmes en train de vider les poissons... et ça, alors par contre, c'est de la peinture réaliste... assez classique, quoi. Enfin, voilà. Donc, elle a les deux côtés à la fois, comme en tant qu'influence. Sinon, parmi les personnages qui l'ont influencée, bah, son père, quand même, au début. Et puis, quand même, son premier compagnon, ce qui n'était pas vraiment un compagnon parce qu'ils n'ont pas vécu ensemble, mais... On pense qu'ils étaient amants, ça n'est écrit nulle part. C'était son grand amour, c'était Kerr Hardy, donc qui était d'abord un syndicaliste, et ensuite il est devenu député, alors que Ariane disait, on en parlait tout à l'heure, au début il était plutôt anti-parlementariste, puis finalement il est quand même devenu député, mais qui était un personnage absolument merveilleux. Un type qui avait une enfance absolument terrible, super dure, enfin, et qui était devenu un personnage important, qui s'était formé lui-même, qui avait suivi genre un cours du soir ou que sais-je, et qui a été son grand amour, quoi, pendant, je sais pas, jusqu'à ce qu'il meure, en fait, pratiquement. Enfin, ils avaient un peu commencé à s'engueuler avant sa mort. Ils n'étaient plus tellement d'accord sur certaines choses, déjà. Donc c'est quand elle commençait vraiment à aller de plus en plus à gauche. Et que lui, en vieillissant, comme tout le monde, finalement. Enfin, comme beaucoup de gens. Et donc, ils avaient un peu commencé à s'engueuler. Mais enfin, sa mort a été un truc terrible pour elle. Et c'était son mentor aussi. Et pareil, chez lui, elle a rencontré énormément de gens, de militants... Et c'était son grand amour, et puis donc il est mort, et après elle a donc vécu avec Silvio Corio. Donc ça, je pense que ce sont c'est forcément des influences, hein, les gens avec qui tu vis, forcément.
Ça expliqué dans le livre, et puis dans ce qu'elle dit, du pourquoi elle était contre le mariage.
Oui. ça y est, je commence à fatiguer. Non, c'était. Elle était, je pense, contre tout lien officiel. Contre la position des femmes mariées aussi. Et puis, alors, il y a autre chose, quand même. Alors là, c'est pas une position idéologique contre le mariage. De toute façon, épouser Silvio Corio, c'était hyper risqué, parce que Il y a un problème de national, risquer d'avoir automatiquement la nationalité italienne en épousant un Italien et de se retrouver à être envoyé en Italie et emprisonné, quoi. Enfin, il y avait un truc, une histoire comme ça qui était, elle n'avait pas du tout intérêt à l'épouser en plus. Donc ça, c'est... mais je pense qu'elle l'aurait pas fait de toute façon parce que elle avait donc cette vie avec Carardi, à qui elle a écrit des lettres extraordinairement folles d'amour et tout. C'était donc elle a eu une certaine liberté, on va dire, par rapport à tout ça. Un petit coup là,
ouais, là peut-être. Justement, on peut peut-être se dire qu'on va te libérer un petit moment, qu'ensuite les discussions peuvent continuer.
Ah, ben, absolument.
Et d'autres questions. Et puis, bon, pour ceux qui le souhaitent, il y a le livre. Et puis, il y aura les prochaines conférences. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais voilà. Bon, s'il n'y a pas une remarque.
Merci à vous. Merci.